Bon, rebonjour à chacun et chacune. Donc, nous voilà aujourd'hui pour la suite des messages sur la première épître de Jean et doucement nous arrivons à la fin, puisqu'aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 5 et dernier chapitre de la première épître de Jean. Alors j'avais été ambitieux au départ en pensant commenter les 12 premiers versets. Mais je pense que les 5 premiers vont déjà nous occuper, si je veux rester dans les temps de 30-35 minutes. Mais en fait, les versets 1 à 12 forment un ensemble, donc on le continuera la prochaine fois. Donc je vais vous lire les 5 premiers versets du chapitre 5 de l'épître de Jean, et à nouveau dans une traduction à la maison, c'est-à-dire une traduction à partir du texte araméen. Donc suivez si vous voulez également dans vos Bibles pour voir et entendre d'éventuelles différences. 1 Jean 5, verset 1. Tout homme qui se confie dans le fait que Jésus est le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, est enfanté de Dieu. Et tout homme qui aime ardemment l'enfanteur aime ardemment aussi celui qui a été enfanté de lui. Et par ceci nous connaissons que nous aimons ardemment les fils de Dieu, quand nous aimons ardemment Dieu, et que nous mettons en œuvre ses commandements. Car ceci est l'amour ardent de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont ni lourds ni pénibles, parce que tout homme enfanté de Dieu est victorieux du monde présent. Et ceci est la victoire qui a vaincu le monde présent, à savoir notre confiance en lui. Car qui est celui qui vainc le monde présent, sinon celui qui se confie dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Donc voilà pour les 5 premiers versets. Donc Seigneur, on te demande de nous accompagner dans ce qui va être dit, dans ce qui va être entendu, pour que cette parole puisse agir dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus. Donc comme les dernières fois, je vais le prendre verset par verset et élaborer un peu quelques pensées autour de ces versets. Donc d'abord le premier verset, « Tout homme qui se confie dans le fait que Jésus, Yeshua, est le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, est enfanté de Dieu. » Alors déjà souvent dans mes traductions, j'évite le mot « Christ ». Parce qu'on entend tellement le Christ ci, le Christ cela, qu'on oublie qu'est-ce que ça veut dire le Christ. Le Christ, c'est le Messie, et le Messie, c'est celui qui a été oint de l'huile de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Donc quand on dit Jésus est le Messie, on dit c'est l'homme qui a reçu l'onction de Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est ce que, par exemple, il est dit dans Acte 2, verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, le bras de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, au jour de la Pentecôte. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas oints en nous-mêmes ou par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire de ce point de vue-là. Ce n'est pas nous qui recevons l'Esprit. C'est Jésus qui l'a déjà reçu et nous le recevons au travers de lui, dans la communion avec lui. Ça, c'est important parce qu'il y a dans certains milieux cette conception qu'on reçoit l'Esprit, on est baptisé de l'Esprit, on fait des choses par l'Esprit et on oublie complètement, mais attendez, c'est Jésus qui a reçu l'Esprit. C'est Jésus, lui, le Messie. Et ce n'est qu'en communion avec lui que du coup, son onction peut se manifester au travers de nous. Nous n'avons pas les choses en nous-mêmes, par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas les activer par nous-mêmes. La seule chose que nous ayons à faire, et ça c'est quelque chose que vous m'entendez dire dimanche après dimanche quand je passe, c'est lui qui a tout reçu. C'est lui qui a été élevé. C'est lui qui a été loin. C'est lui qui agit. C'est lui qui fait. C'est lui qui œuvre. Nous ne pouvons rien. Nous ne sommes qu'un sarment sur une vigne portée par un cep. Et si nous ne recevons pas la sève venant du cep, nous ne pouvons rien faire. Jean 15. Ça, c'est important parce que tant que l'on pense que nous recevons l'Esprit, nous faisons des choses, en fait, nous ne faisons que nous élever. Là où le Seigneur nous demande au contraire de nous abaisser pour que lui fasse, nous devons décroître pour que lui croisse. Donc, il est important pour garder ce regard sur Jésus, de réaliser que c'est lui qui a tout reçu et que nous n'avons rien en dehors de lui. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, nous ne sommes que de la poussière, nous sommes un grain de poussière, nous sommes tirés de la poussière, nous sommes de l'argile tirée du sol. Et pour faire suite à ce qu'a partagé Abdel ce matin, par exemple dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit que nous sommes baptisés de l'Esprit pour participer au même corps. On ne peut pas séparer l'Esprit du corps. Donc, à nouveau, ce n'est pas une notion individuelle. C'est sur ça que je veux insister. Parce que dès qu'on individualise tout, on s'élève. Et on va utiliser Dieu et les dons de Dieu et la connaissance de la Bible, etc. pour s'élever. Alors que la parole nous remet à notre place, dans le bon sens du terme, en nous faisant membres de son corps. Et comme il a été dit tout à l'heure, s'il a été loin de l'Esprit, c'est pour que nous le soyons. S'il a souffert dans son corps, c'est pour que nous puissions endurer la souffrance, etc., etc. Donc tout passe par lui. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc la seule chose, là aussi je radote, je suis désolé, mais la seule chose que nous ayons à faire, la seule chose qui soit en notre capacité, c'est de chercher la communion avec lui. C'est la seule chose. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est lui qui, soit il l'a déjà fait, soit il l'accomplit au travers de nous. Et donc, il nous reste une seule chose à faire. Prendre plaisir à être devant lui, à lui parler, à communier, à lui partager les fardeaux, les soucis. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est communier avec lui. Et c'est comme ça que, par exemple, à Antioche, qui a été la première église dans laquelle les nations étaient majoritaires, parce que jusque-là, l'Église était surtout à Jérusalem, où les Juifs messianiques étaient majoritaires. C'est à Antioche qui a probablement la première Église importante où la majorité était constituée de Grecs. C'est là que, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, autrement dit les petits ouins. Vous voyez ? Mais ce n'est pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. Et ce n'est certainement pas les Juifs incrédules qui ont appelé les disciples des chrétiens. Parce que pour eux, chrétiens voulaient dire ouin, messie. Et non, attends, il ne fallait pas blasphémer en attribuant à des hérétiques le terme de ouin, de messie. Ce sont les nations, c'est les gens à Antioche. Ils les appelaient, tiens, les chrétiens, les ouins. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de Jésus, Jésus. Donc on pourrait dire plutôt que des chrétiens, les messiens, je ne sais pas comment il faut dire, mais voilà, ils avaient constaté que ces disciples-là n'avaient que Jésus à la bouche. Alors ils les ont appelés, tiens, les chrétiens. Vous voyez ? C'est pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Donc j'avais mis là dans mes notes, est-ce un sobriquet ou plutôt un témoignage qui était rendu et que les autres percevaient en disant, tiens, mais il parle constamment de Jésus, celui qui a été oint. Donc il ne parlait pas d'eux-mêmes comme nous sommes les oints de Dieu. Celui qui a été oint, c'est Jésus, c'est lui que nous vous annonçons, c'est de lui dont nous vous parlons. Ils mettaient en avant Jésus et c'est pour ça qu'ils ont été appelés chrétiens. Donc ça nous pose la question évidemment de que mettons-nous en avant dans notre vie spirituelle, dans notre témoignage, dans nos œuvres ensemble. Est-ce que c'est Jésus que nous mettons en avant ou est-ce que c'est nous-mêmes que nous mettons en avant ? Ça, c'est important. Quelle est la perception que nous avons de nous-mêmes et quelle est la perception que nous avons de Jésus? Si Jésus est grand à nos yeux, nous serons petits à nos propres yeux. Si nous sommes grands à nos propres yeux, Jésus sera petit à nos propres yeux. Donc ça, c'est la première pensée qui vient de ce premier verset. On se confie dans le fait que Jésus est le Messie. Donc c'est centré sur Jésus. Mais également, il est dit, on se confie. Dans votre traduction, je pense que la plupart, vous avez celui qui croit que le credo, une doctrine, une connaissance. Je ne croyais pas, et tac, maintenant je crois. Parce que j'ai intégré dans ma tête, ah, Jésus est le Messie, la doctrine fondamentale du christianisme. D'accord? Mais se confier, c'est très différent comme verbe. Pour que je me confie en Abdel, il faut que je passe du temps avec Abdel. Il faut que j'apprenne à le connaître pour lui faire confiance. Voyez? La notion de se confier en implique une relation, implique une durée, implique une communion, prendre du temps. Et comme je crois l'avoir déjà dit dans le verbe la foi, qui est de la même racine, donc en latin, foi, c'est fides. Et de fides viennent deux mots, confiance et fidélité. La confiance, c'est un état de repos intérieur et de paix à l'égard d'une autre personne. Je sais qu'il n'est pas mon ennemi, il ne va pas faire du mal. Je me confie en lui, je m'ouvre à lui ou à elle. C'est vrai dans le mariage surtout. Et la fidélité, là on est dans l'action, le serviteur fidèle. Donc la confiance, c'est un état de repos intérieur à l'égard d'une autre personne en qui on se confie, qu'on reconnaît comme son supérieur. Et la fidélité, ça engage l'action. Alors c'est intéressant, la confiance et la fidélité sont les deux revers du mot la foi. Mais est-ce que quand on entend le mot foi, je suis sauvé par la foi, est-ce qu'on réalise ce mot foi, quel est son contenu pratique? Je m'abandonne et je me confie à Jésus et je lui suis fidèle. C'est ça que ça veut dire, je deviens son serviteur fidèle. C'est ça la foi qui justifie. C'est pas un credo. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Et on récite son credo comme ça, mais c'est mort, c'est sec. Il n'y a pas cette relation, cette chaleur quand on pense à Jésus. Waouh, l'ami fidèle et tendre, le Sauveur, le Seigneur. Celui qui s'est livré pour moi, celui qui a souffert pour m'aider à porter ma souffrance. Hein, souvent on dit Jésus a porté nos maladies à la croix. Alors on imagine, ça veut dire que moi je ne dois plus être malade. Non, ça veut dire qu'il va se mettre... Alors parfois ça veut dire qu'effectivement il nous guérit, mais ça, parfois ça veut dire surtout qu'il va se tenir à nos côtés pour pouvoir endurer la maladie. C'est comme ça qu'il la porte, parce qu'il communie avec nous. C'est ça le Seigneur que l'on proclame. Et enfin il est dit que celui qui se confie... comme je viens de le dire, donc en araméen, je ne sais pas comment on dit en arabe, mahaimna. Il doit y avoir la racine amin. Voilà. C'est, donc, j'imagine que tu confirmes en arabe, il y a cette idée de, pas simplement de croire, mais de confiance dans cette racine-là.
Il y a même des mots qui veulent dire, en fait, je te confie tout ce qui est de plus cher en moi.
Voilà.
Et je peux partir en voyage tranquille.
Voilà. Donc, ce n'est pas simplement un credo dans la tête. C'est vraiment une confiance en quelqu'un. Donc, celui qui se confie dans le fait que Jésus est le Messie...
Juste, j'ajoute l'expression qui veut dire quelque chose, quand on confie quelque chose à quelqu'un, et c'est très présent chez les orientaux, ça s'appelle amana.
Voilà. Donc, c'est toujours la même racine qui renvoie à cette confiance, mais qui est pratique. Je confie mes biens, je confie ma personne. C'est pas simplement je crois dans ma tête que Jésus est le Messie. Vous voyez, ça c'est l'arbre de la connaissance. Je crois dans ma tête que Jésus est le Messie. Mais je me confie en la personne de Jésus. Là on est dans l'arbre de la vie. On est dans le relationnel, on est dans le vivant. Et celui qui se confie de cette manière-là, dans le fait que c'est Jésus qui a reçu l'onction de l'Esprit, celui-là est enfanté de Dieu. Donc la marque, on a parlé la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois, il y a 2 mois, de la nouvelle naissance. Ou en tout cas c'était à l'occasion de Pâques. Quand on a parlé de la nouvelle naissance, On a parlé d'un enfantement par l'esprit. Et on a parlé surtout d'un processus. Que combien on aimerait que, tac, ça se fasse avec un claquement de doigts, c'est terminé. On a parlé d'un processus, un enfantement qui va de la conception jusqu'à l'accouchement. Et entre les deux, il y a une gestation, il y a un travail que l'esprit fait en nous pour nous amener à la repentance, au dépouillement et pour voir Jésus comme étant celui qui est oint. Et bien là, celui qui se confie en le fait que Jésus est le Messie, il est celui, pas moi, lui, qui a reçu l'Esprit, celui-là est enfanté de Dieu. Donc le signe et la marque de l'enfantement de Dieu, que l'on est enfanté de Dieu, c'est que je me confie en Jésus, donc j'ai une relation vivante avec lui, et je confesse que lui est le Messie, et donc mes regards ne regardent plus qu'à lui. C'est celui qui a tout reçu. Et comme aussi je l'ai déjà dit souvent, il a tout, je n'ai rien. Il sait tout, je ne sais rien. Il peut tout, je ne peux rien. Quand on fonctionne comme ça, on confesse que Jésus est le Messie. C'est lui le Messie. Donc je ne vais pas répéter évidemment ce que j'avais dit à l'occasion de Pâques, mais c'est cette idée-là. Et là, je vois qu'il faut que j'avance parce que j'ai déjà... Premier verset, j'ai déjà la moitié de mon temps. Donc on va avancer... La suite de ça, c'est que tout homme qui aime ardemment l'enfanteur, là je reprends les mots, je les traduis en fonction de la racine. Hein? Enfanté de Dieu, l'enfanteur, l'enfanté. C'est toujours la même racine qui est employée. Tout homme, toute femme, qui aime ardemment l'enfanteur, c'est-à-dire Dieu, aime ardemment celui qui a été enfanté de lui. Donc la parole nous dit, et d'ailleurs c'est Jean, qui nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc il nous a aimé le premier, du coup nous l'aimons, et parce que nous aimons l'enfanteur, nous aimons également ceux qui ont été enfantés de lui. Et ça renvoie à la notion de corps et au fait que la communion fraternelle, elle a lieu entre ceux qui sont enfantés de Dieu. Donc ceux qui se confient en Jésus, ceux qui regardent à Jésus, qu'ils voient que, voilà, que Jésus est au centre de tout et au centre de la vie de chacun. Et ça, c'est important parce que aimer l'enfanteur, je confesse aimer Dieu, et aimer ceux qui sont enfantés de lui, ça c'est un peu plus compliqué. Vous savez, le chrétien d'à côté, c'est pas exactement, il croit pas exactement comme il faut. Hein. Voilà, nous on a la bonne église, on a la bonne doctrine, on a nous c'est bien. Hein. À côté, ça c'est pas tout à fait correct. Ouais, et puis on commence à partir dans des trucs comme ça, là où la parole nous dit, mais attendez, nous confessons aimer l'enfanteur, est-ce que nous aimons les enfantés de Dieu, même s'ils ne pensent pas tout à fait comme nous? Même s'ils ne font pas tout à fait comme nous, est-ce qu'on a déjà réalisé que nous ne connaissons qu'en partie, qu'aucun d'entre nous n'a la connaissance complète, qu'il y a des choses que je crois aujourd'hui que le Seigneur corrigera demain, que nous sommes en marche permanente et donc dans un processus de correction permanente? Et donc qui me dit que ce que je crois être juste en moi est faux chez mon frère ne va pas se renverser dans quelques temps où je réaliserai que c'est moi qui est faux et c'est mon frère qui avait raison ou ma sœur. Donc, on a tendance à absolutiser nos manières de penser, nos manières de voir, nos manières de faire, alors que nous ne connaissons qu'en partie, nous ne savons qu'en partie, et on se ferme du coup à la correction que le Seigneur, correction au sens bon du terme, hein, c'est-à-dire le redressement, l'amélioration que le Seigneur pourrait nous procurer par quelqu'un qui pense différemment. Hein? Ou alors on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on pense qu'on a tout compris, et comme je l'ai dit, on a la bonne doctrine, on est dans la bonne église. Si on a toujours cette tendance, hein? On est dans la bonne église et les autres, c'est ça oui, ça non. Hein? Mais dès qu'on commence à penser comme ça, on est autoréférent, on se met au centre. C'est plus Jésus que l'on met au centre. C'est nous-mêmes, nos conceptions, nos manières de voir. Donc, vous voyez, celui qui nie aimer l'enfanteur, On ne peut pas ne pas aimer les enfantés, même s'ils ne sont pas tout à fait comme nous. Hein? Sinon, on se met au centre. Donc, faisons attention à ça, parce que...
On parle bien des frères et sœurs. Sinon, c'est la porte ouverte à tout.
Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, on parle de ceux qui mettent effectivement Jésus en premier. Mais même avec quelqu'un qui met Jésus en premier, si on creuse un peu, oh, on va en trouver des différences. Et c'est normal. Alors, je ne parle même pas des différences de culture, des conceptions complètement différentes. Je pense qu'entre un chrétien français et un chrétien chinois, ça doit être pas mal, hein, les différences. Différences culturelles, de manière de faire, de mode de pensée, puisque le langage complètement différent, etc., etc. Et pourtant, s'il est enfanté de Dieu, il va bien falloir trouver un point commun. Et ce point commun, c'est Jésus. Donc le point de départ, c'est Jésus. Et si ce présupposé-là n'est pas posé, alors là, effectivement, on va vite sentir qu'il y a un problème. Mais si le présupposé est bien posé, c'est-à-dire Jésus au centre, ben, là, on apprend des différences. Si on confesse aimer l'enfanteur, on va apprendre à aimer l'enfanté. Donc c'est intéressant, en araméen, on joue sur ce mot, être enfanté de Dieu, donc enfanté, le participe passif, mais également l'enfanteur, actif, et être enfanté, le verbe conjugué au mode passif. Voilà, sans cela, nous sommes condamnés à la division, aux disputes, et au... voilà. Et on n'arrive pas à expérimenter la communion fraternelle, et on se renferme sur notre propre petit cercle. Et je vous rappelle que ça s'appelle une pensée sectaire. On coupe avec les autres. C'est carré, le sécateur. Sectaire veut dire je coupe. Hein? Donc je garde ce qui me va bien et les autres, je coupe. Hein? Parce que ça ne me plaît pas, parce que ce n'est pas comme moi. Moi, moi, moi. Vous voyez ? Si on dit aimer l'enfanteur, on va aimer ceux qui sont enfantés de lui. Même si des fois ça me hérisse un peu les poils. Donc ça apprend la patience. Et puis on avance comme ça.
C'est en fait voir la faille dans l'œil du voisin aussi.
Moi, oui. Dérange, tu vois. Oui, par exemple. Ouais. Et on en fait une grosse histoire.
Tout de suite l'esprit qui me dit, et toi, tu t'es vu ?
Hein ?
Et toi, quand tu penses à quelque chose, ça revient automatiquement et là, ça te remet.
Hein ?
À chaque fois.
Un très bon remède pratique quand on a des différences de vue avec un frère. Vous savez ce qu'il faut faire ? Surtout pas entrer dans les disputes de mots, il faut prier pour le frère. Parce qu'on ne peut pas avoir de la rancœur à l'égard de quelqu'un pour qui on prie. Et donc le meilleur moyen quand il y a des différends relationnels, c'est de prier pour l'autre. Ça abaisse en fait tout ce travail intérieur là de racines d'amertume ou de quoi que ce soit d'autre. Tu parlais de la rancœur tout à l'heure, Nathalie. Voilà, le meilleur moyen, c'est de prier en fait pour ceux... C'est pour ça que Jésus dit « Priez pour ceux qui vous font du mal, priez pour vos ennemis. » Parce que ça désamorce en nous ce travail de rancœur, d'amertume, en fait, qui nous pourrit la vie. Donc Jésus, quand il dit ça, il dit « Mais tu veux surmonter la rancœur ou le manque de pardon ou ceci ou cela, ben, commence déjà par prier pour ces personnes-là et ça va désamorcer quelque chose en nous. » Donc celui qui dit aimer l'enfanteur doit aimer ceux qui sont enfantés de lui. Nous attaquons maintenant le verset 2. Par ceci nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu, alors tout le monde va dire, bah oui, moi j'aime Dieu. Et que nous mettons en œuvre ses commandements. Donc là, il y a une dimension pratique à côté de laquelle on ne peut pas passer. Et ça, c'est important parce que l'amour dont parle la parole n'est pas nécessairement, et même d'ailleurs le plus souvent, j'allais dire, n'est pas un sentiment. Ou alors, je vous mets au défi d'aimer avec un bon sentiment les ennemis qui vous persécutent. Pourtant, Jésus dit bien « aimez vos ennemis ». Et Dieu aime autant les justes que les injustes. Donc, ce n'est pas basé sur un sentiment. L'amour dans la parole est basé sur des actes. C'est pour ça qu'il est question de mettre en œuvre les commandements de Dieu. Celui, pour connaître, Par ceci, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Donc, par quel signe ? Ben, un, parce que j'aime Dieu, donc c'est ça ma motivation. Et deuxièmement, parce que je vais passer à la pratique. C'est la pratique à l'égard du prochain qui va montrer effectivement que j'aime le prochain. C'est pas forcément, comme je l'ai dit, des sentiments. Par exemple, Romains 12, versets 20-21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Hein, plutôt dire « Ah, ça y est, il a faim, il va souffrir. Hein, moi, j'ai mangé une bonne assiette de côtelettes devant lui pour vraiment le... Hein, voilà, pour le cuisiner. Non. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Autrement dit, fais exactement la chose à laquelle il ne s'attend pas. Parce que s'il est ennemi, il sait très bien que l'inimitié est réciproque sur un plan naturel. Et donc, il s'attendrait évidemment à ce qu'on ne lui fasse pas du bien. Et là, Paul dit non. Fais exactement ce que l'autre n'attend pas. Désarçonne-le ou elle en faisant exactement ce que lui ou elle n'attend pas. Et ça, d'abord, ça guérit quelque chose en nous. Et ça ouvre éventuellement une porte pour l'évangile. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Pas pour lui faire du mal, mais parce que ça va le travailler. Ça va chauffer. Mais attends, pourquoi il réagit comme ça? Moi, je lui aurais mis une claque. Il réagit exactement à l'inverse. Verset 21. Ne te laisse pas ainsi vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je l'ai souvent dit ici, Dieu nous attend sur nos réactions à l'égard du mal. Et ce qui nous lie, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui nous lie, ce n'est pas tellement ce qu'on nous a fait, mais c'est la manière dont on réagit. Et quand on a compris qu'on est lié par la manière dont on réagit, alors on réalise également que la libération n'est plus conditionnée par le fait que l'autre change. Mais c'est juste une affaire entre nous et Dieu, et effectivement de répandre son âme devant Dieu. Parce que c'est ça qui nous lie, ce sont nos réactions. Ce n'est pas ce que l'on nous fait subir. Et ça renvoie au verset 3 donc. Ceci est l'amour de Dieu, que nous gardons ses commandements. Gardions ses commandements, donc mettre en œuvre ses commandements, garder ses commandements. C'est également ce que dit Jacques dans son premier chapitre, 22 à 25. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, je pourrais lire la suite, hein, celui qui écoute la parole ne la met pas en pratique, etc. Mais ce qui me frappe surtout ici, c'est que nous nous trompons nous-mêmes facilement par des faux raisonnements. Et on va justifier dans sa tête des tas de choses, on est plongé dans ces raisonnements pour nous empêcher de mettre la parole en pratique à l'égard du prochain. On va toujours trouver des excuses pour ne pas la mettre en pratique, parce qu'on est dans le raisonnement. Quand on dit blanc, on répond noir. Quand on dit noir, on répond blanc. Quand on répond un, on répond l'autre. Et on est constamment dans les raisonnements. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et aura persévéré, sans être un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Sommes-nous heureux dans notre activité ? Quand on travaille, quand on œuvre pour le Seigneur, quand on lit la parole, quand on est devant lui, est-ce qu'on est heureux dans notre activité ou est-ce qu'on fait comme les pharisiens à tirer des... J'ose pas prononcer le mot de G, terminé par E, mais la face, longue, parce qu'il faut montrer combien on est pieux et combien on souffre devant Dieu. Et on fait des belles prières devant les hommes, mais on n'est pas heureux dans notre activité. Donc il faut se poser la question, si on n'est pas heureux dans notre activité pour le Seigneur et dans notre vie quotidienne, où est Jésus dans l'histoire? Malgré les difficultés, malgré les souffrances, où est Jésus dans l'histoire? Il y a quelque chose en nous, au fond là, qui doit être heureux, qui du coup patiente, persévère, parce qu'on sait que tout ça n'est que provisoire et connaîtra sa fin. Ces commandements ne sont ni lourds ni pénibles. Donc là, le mot araméen, c'est vraiment lourd, qui pèse, pesant. Parce que tout homme enfanté, ou tout homme, toute femme, hein, chaque fois je dois le dire, mais c'est toute personne enfantée de Dieu, est victorieux. Et ceci est la victoire qui a vaincu le monde. C'est notre confiance en lui. Car qui a vaincu le monde, sinon celui qui se confie dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu? Là, il y a un point qui est très important. D'abord, ces commandements ne sont pas lourds, ne sont pas pénibles. Quand vous avez quelqu'un, un chef, par exemple, qui est vraiment d'un caractère pénible, et qu'il vous demande, tiens, va faire ça. Alors évidemment, en bon chrétien, oui chef, bien chef, on le fait. Mais on voit bien qu'il y a une lutte en nous, c'est pas facile. Et c'est normal, hein, c'est pas simple. On le fait parce qu'il faut le faire, c'est notre supérieur, mais c'est pas facile. Mais imaginez exactement la même chose, mais qui nous est demandée par une personne bien aimée. Mais oui, bien sûr, et là, ouf, on fait la chose sans même réfléchir. Exactement la même chose, suivant que ça vient d'une personne pénible ou de quelqu'un qu'on aime, on le fait de manière... On fait exactement la même chose, mais avec un état d'esprit complètement différent. Donc là, quand il s'agit des commandements de Jésus, bien, cela nous est demandé par quelqu'un qui nous aime et que l'on aime en retour. C'est pour ça que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est complètement lié à la perception que nous avons de Jésus. Est-ce que c'est un maître sévère ou est-ce que c'est l'ami fidèle et tendre qui nous demande? Ah tiens, va voir, va visiter telle personne. Allez, j'y vais parce que c'est toi qui me le demande, volontiers. Parce que ça vient de lui. Donc la nature lourde ou pas d'un commandement dépend tout à fait du caractère de celui qui nous l'a demandé. Sur le plan naturel, c'est déjà comme ça. Donc à combien plus forte raison quand c'est la parole de Jésus qu'on essaye de mettre en pratique. Donc c'est l'observation de la loi qui était lourde et pénible. Quand on se met des lois, on se met nous-mêmes nos propres fardeaux sur le dos. Et après on se plaint auprès de Dieu en disant « mais vraiment t'es un maître pénible ». Mais en fait on se charge nous-mêmes. C'est vrai dans les milieux légalistes en particulier, on met toujours plus de lois et la vie chrétienne devient toujours plus contraignante et plus pénible. Et on finit par se forger une image de Dieu comme étant celle d'un maître pénible, lourd, difficile, dur à satisfaire. Ça, c'est le légalisme. C'est la spirale du légalisme. Et peu à peu, l'image du Père Céleste est remplacée par l'image du Père d'en bas. Parce que le légalisme mène toujours à ça, à un échange de pères. On finit par échanger le Père d'en haut par le Père d'en bas, qui est effectivement sévère. Hein, c'est ce qui est dit dans Actes 15, verset 10. Je ne vais pas lire le verset, mais voilà. Nos pères n'ont pas pu porter le joug de la loi, parce que ce joug est trop lourd. Alors que la relation à Jésus, elle peut être légère. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos pour votre âme. Il est là pour nous alléger le fardeau, parce qu'il a lui-même porté le fardeau, comme Isaac avait porté le fagot de bois. C'est le Fils qui l'a porté pour nous. Et là, il est dit que celui qui est enfanté de Dieu a vaincu le monde. Alors, je vous rappelle que Jésus a déjà dit cela avant d'aller à la croix. Hein, j'ai vaincu le monde. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a vaincu le monde? Il a pris son épée, il a constitué une armée, il a chassé les Romains de Judée et il a instauré le royaume d'Israël. Est-ce que c'est ça, vaincre le monde? Non. Il a vaincu le monde parce que il n'a pas craint la mort, parce que comme il est dit, le prince du monde n'a rien en moi, c'est en ce sens qu'il a vaincu le monde. Autrement dit, puisqu'il est dit là, celui qui a vaincu le monde, c'est celui qui se confie dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a vaincu le monde parce que jusqu'à la fin, et malgré toutes les apparences, il a gardé la confiance en son Père. Et de la même manière, nous sommes vainqueurs si malgré les apparences, malgré la maladie, malgré les conditions financières, malgré ce qui va nous tomber dessus peut-être bientôt, nous gardons notre confiance en Jésus, là où tout nous dirait qu'il faut ne plus se confier en Jésus. Tout dans le visible nous dira qu'il ne faut pas avoir confiance en Dieu, et c'est pourtant là qu'on persévère et qu'on garde notre confiance en lui, sachant que le mal, il va le changer en bien, sachant que ce monde est provisoire, et sachant qu'il revient dans sa gloire pour mettre une bonne chose, une bonne foi, les choses en place. Et là, tous ceux qui braillaient contre Dieu et qui se moquaient, comme il est dit dans l'épître de Pierre, etc., vont se retrouver la bouche bée, et les rôles vont être complètement inversés. Les enfants de Dieu vont devenir resplendissants dans le royaume, et tous ceux qui se sont moqués de Dieu, leur bouche sera fermée. Ça va venir lorsque Jésus revient. Et en attendant, nous apprenons la patience. Donc la victoire, c'est celle-là. Ce n'est pas la victoire comme la conçoivent certains, une église qui va conquérir le monde, imposer la loi de Dieu comme joug sur les nations. Je l'ai entendu de mes oreilles il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait bondir. Voilà, c'est cette vision théocratique. Voilà, donc je me demande toujours quelle différence ça a avec l'ambition communiste, l'ambition islamique, l'ambition ceci, l'ambition cela. On veut régenter et imposer le joug sur les autres. Mais ce n'est pas du tout ça la victoire dont parle le Seigneur. Jésus a vaincu en allant à la croix. C'est-à-dire que jusqu'à la croix, et quand il a rendu son souffle en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est la dernière parole qu'il a prononcée dans l'évangile de Luc. Jusqu'à la croix, donc jusqu'au moment où il rend le souffle, il a gardé sa confiance en son Père. Alors que tout lui disait le contraire. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Jésus a dit non, je me confie en mon Père, je reste sur la croix. C'est la volonté du Père. Donc la victoire sur le monde, c'est la victoire contre ce que je vois. Parce qu'on voit celui qu'on ne voit pas. On voit l'invisible, c'est-à-dire Jésus. C'est la perception, je reviens toujours à ça, c'est la perception que l'on a de Jésus qui va déterminer en fait le cours de notre vie chrétienne. Ce n'est pas la connaissance que l'on a dans notre tête, c'est la perception que l'on a de Jésus, en particulier dans la prière. Et donc la victoire, c'est d'avoir confiance en Jésus, alors que tout me dit le contraire. Tout me dit le contraire. Dans mon corps, dans mon âme, les luttes intérieures, extérieures. Comme le dit Paul dans Romains 8, on nous flagelle trois fois, je ne sais pas combien de fois, de naufrage. Et ceci, et dès cela, les persécutions dans tous les sens, et nous sommes pourtant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous séparera de l'amour de Christ, du Messie, de celui qui a été oint ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ? Est-ce que c'est ça qui va nous séparer de l'amour de Jésus pour nous ? Et Paul continue ensuite, verset 37 de Romains 8. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc ça ne vient pas de nos capacités à endurer la souffrance, ce n'est pas du masochisme, mais par celui qui nous a aimés, parce qu'il les a déjà subis lui-même avant nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'il a subi lui-même ces choses-là. Il peut par son esprit nous encourager à passer au travers de ces choses-là. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, la hauteur, la profondeur, et aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, loin de Dieu, notre Seigneur. C'est ça la victoire. Ce n'est pas une victoire basée sur le visible. Il est la victoire qui, malgré le visible, se confie en celui qui, charnellement, est invisible, mais aux yeux du cœur est perçu. Donc, nous percevons le Seigneur, et c'est par cela qu'est la victoire. Donc, ça veut dire que le diable va tout faire, là aussi je le répète souvent, mais il va tout faire pour détourner nos yeux de Jésus. Le seul combat consiste à garder nos yeux sur Jésus, ayant les regards sur lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, et on ne dévie pas de ça. Si on dévie, on revient vite. De temps en temps, je suis obligé de dire au Seigneur, « Seigneur, ramène-moi à toi. » parce que j'ai pris un chemin de traverse. Seigneur, ramène-moi à toi. Tu es le berger. Moi, je n'ai pas retrouvé mon chemin tout seul. Ramène-moi à toi. Je te fais confiance pour que tu me ramènes à toi. Et on confesse ce qui s'est passé, etc. Mais ramène-moi à toi. Avoir confiance dans le Seigneur pour qu'il nous ramène comme le bon berger qu'il est à l'égard des brebis qui souvent aiment bien regarder l'herbe qui est dans le champ d'à côté. Ramène-moi à toi. Donc voilà. Voilà, et on est à peine arrivé au verset 5. Mais voilà, je crois qu'il y avait déjà de la matière pour ce matin. Et donc la prochaine fois, on continuera avec les versets 6 à 12. Seigneur Jésus, tu es notre bon berger. Tu es celui qui prend soin de brebis qui souvent font à leur tête, qui ont leur propre pensée, qui, comme je l'ai dit, vont regarder l'herbe à côté, des brebis qui se comparent les uns les autres, des brebis qui ne sont que cela, des brebis. Et on a souvent une bien plus haute pensée de nous-mêmes que ce que nous sommes en réalité. Et ce que nous sommes en réalité, la mesure de ce que nous sommes en réalité, elle est à la fois dans la perception que l'on a de notre propre condition de vase de terre tiré de l'argile, tiré de la poussière, mais également un vase de terre, comme le dit Paul, qui porte la gloire de Dieu par l'Esprit de Jésus qui est en nous. Et donc que nous puissions toujours plus être petits à nos yeux, toi que tu puisses être grand à nos yeux, que tu captives, charmes, attires toujours plus notre regard. Parce qu'au travers de toi, c'est le Père que l'on voit. Comme tu l'as dit toi-même à Philippe, je suis dans le Père est en moi, qui me voit, voit le Père, je suis le chemin vers le Père. Donc tout Seigneur Jésus passe par toi. Donc merci. Cette volonté que tu as manifestée de nous ramener au Père par toi, en communion avec toi, toi qui es l'image visible du Père invisible, ce Père qui habite une lumière inaccessible que nul n'a pu et ne peut voir, un Père dont les pensées sont tellement grandes qu'on n'a aucune idée de la manière dont il pense, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui mets à notre portée l'amour du Père, les pensées du Père, le dessein bienveillant du Père. Et merci de cette perspective que nous allons passer l'éternité, petit à petit, à croître dans la connaissance du Père avec toi à notre côté. Amen.
Amen. Amen.